Les assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit avaient jusqu'au 30 mars dernier pour déposer leur déclaration pour l'exercice 2011. Le responsable de la Direction générale des impôts s'était exprimé sur le sujet sur nos antennes cette semaine. Nous y reviendrons dans ce panorama. Dans ce panorama également, nous reviendrons sur la présentation le week-end dernier du rapport 2008-2009 de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE en sigle. Les chiffres publiés par ce rapport ont été quelque peu contestés par la société civile. Nous y reviendrons. Nous parlerons également dans cette émission de la hausse du coût du transport en commun dans la ville de Kinshasa. Une hausse occasionnée par la pratique du demi-terrain par les chauffeurs qui estiment qu'avec toutes les augmentations de carburant qu'il y a eu au pays depuis des années, les autorités provinciales devraient revoir à la hausse les tarifs. Panorama économique, vous le savez, chers auditeurs, c'est l'émission qui fait la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Vous le savez également, cette rétrospective est commentée et analysée chaque week-end par un invité. Notre invité aujourd'hui s'appelle Armand Munungoma. Bonjour Armand.
Bonjour madame.
Armand Munungoma est chercheur indépendant. Il est détenteur d'une licence en sciences commerciales et gestion financière. Il est aussi promoteur d'une ONG dénommée Structure en diversité pour un développement enraciné. Je crois que j'ai bien dit.
Oui, oui madame.
Nous aurons l'occasion donc de parler aussi de son ONG. Agathe Mpona, Elema et Willy Akonda vous présentent cette émission. Chers auditeurs, merci de votre fidélité.
Panorama économique, le dossier.
Les assujettis à l'impôt professionnel sur le bénéfice et profit avaient jusqu'au 30 mars pour déposer leur déclaration pour l'exercice 2011. Willy Akonda.
Aucune dérogation ne sera accordée. En plus, des sanctions sont prévues à l'endroit des récalcitrants. Déclaration faite par le DG de la DGI, Dédoné Locadi, au cours d'un entretien qu'il a accordé à notre consoeur Nadine Foulan-Simba.
Tous les contribuables qui sont assujettis à l'impôt sur les bénéfices et profits qui ont eu à exercer leurs activités au cours de l'année 2011 sont tenus de pouvoir souscrire leur déclaration au plus tard le 31 mars 2012, suivant la loi. Mais étant donné que le 31 tombe un samedi, nous les invitons à prendre toutes les dispositions pour souscrire leur déclaration au plus tard le vendredi de cette semaine, donc le vendredi 30 mars 2012. Et à cette effet, nos services resteront ouverts pour les recevoir et ils pourront avoir aussi l'occasion de pouvoir s'acquitter du solde de l'impôt sur le bénéfice, s'agissant particulièrement de ceux qui relèvent de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts, ainsi que ceux qui relèvent des sièges modernisés des directions provinciales des impôts.
Et si jamais ces personnes dépassaient cette date, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues?
Bon, je voudrais d'abord indiquer qu'il n'y a pas de dérogation possible. Tous les opérateurs économiques, même ceux qui ont eu à écrire auprès de l'administration, doivent noter que l'échéance du 31, c'est une échéance fixée par la loi et il n'est pas prévu de dérogation. Donc, ils doivent prendre toutes les dispositions pour souscrire les déclarations à l'échéance. Et ceux qui n'auront pas souscrit leur déclaration à l'échéance, conformément à la loi, ils feront l'objet de taxation d'office. C'est-à-dire que l'administration pourra établir les impôts à leur lieu et place. Sur base des informations à sa possession, l'administration va estimer l'impôt qu'il pouvait payer au regard peut-être de la comparaison avec des contribuables similaires ou bien sur base d'autres informations à sa possession et fixer d'office les impôts qu'ils devront payer. Et cette fois-là, ils auront perdu en fait un avantage certain, un droit qui est celui de voir leur déclaration être prise en compte. Et lorsqu'on a établi une taxation d'office, cette taxation d'office doit impérativement être payée. Alors que celui qui souscrit sa déclaration, si l'administration estime qu'il faut la corriger, il y a une procédure, donc il bénéficie de la possibilité de pouvoir faire valoir d'abord ses arguments, présenter ses moyens de défense avant que la modification ne puisse être apportée. Et puis, naturellement, c'est lui qui fait l'objet de taxation d'office. Cette taxation d'office est assortie de pénalités. D'abord, les pénalités d'assiette. Et puis, du fait que le paiement sera intervenu après le 31, il y a aussi les pénalités de recouvrement qui devront être réclamées.
Monsieur le DG, je vous remercie.
Ok, merci.
Merci Nadine, bon week-end chez toi. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons dans ce panorama Armand Munungoma, un chercheur indépendant, détenteur d'une licence en sciences commerciales et gestion financière. Monsieur Ngoma, je me tourne vers vous. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention Monsieur Lokadi. Est-ce que vous avez un commentaire?
Effectivement, il y a un commentaire. Il est tout à fait réel et normal que tout employeur sérieux puisse déclarer son impôt avant le 31 mars. Parce que tout employeur a eu tout le temps de pouvoir préparer les états financiers. Et j'ai du mal à comprendre un employeur qui viendrait en retard pour venir déclarer et payer son impôt. Certes, et le coefficient d'évaluation sort un peu en retard, mais généralement, ça prend presque un mois et demi avant l'échéance de la déclaration de l'impôt. Cela ne va pas pousser l'employeur à pouvoir ne pas payer avant son impôt.
Donc les opérateurs n'ont aucune excuse.
Ils n'ont aucune excuse, d'autant plus qu'ils ont eu tout le temps de pouvoir payer cet impôt. En fait, cet impôt d'ailleurs c'est un solde. Ils ont déjà payé, tel que le directeur général l'a dit, ils ont déjà payé deux acomptes provisionnels. C'est juste un solde pour pouvoir compléter l'impôt qu'ils doivent payer pour l'exercice 2011.
Est-ce que vous pouvez rappeler qu'ils sont assujettis à cet impôt?
Oui, ceux qui sont assujettis à cet impôt, ce sont des entreprises, des grandes entreprises, il y a des petites et moyennes entreprises qui sont prises en charge par la Direction Générale des Impôts, par la DGI, par les CDI et les différentes directions des impôts dans les provinces et comme ça.
Ce n'est pas le seul impôt qu'il faut payer, l'impôt professionnel sur le bénéfice et profit. Oui. Il existe aussi un impôt professionnel sur le revenu.
Bien sûr.
Et qui sont assujettis à celui-là?
Cet impôt, et ceux qui sont assujettis à cet impôt, ce sont des employés, les travailleurs des sociétés. Cet impôt concerne la rémunération due à l'employé. Et on retient généralement maximum 30% de ces revenus qu'on doit à l'État pour les comptes de la DGI. Alors, cet impôt est retenu à chaque fois qu'on paye un employé.
Mmh. Voilà. Et nous avons eu à lire un peu vos analyses et vous estimez que cet impôt est un peu de trop?
Effectivement, cet impôt, j'estime que, pour ce qui me concerne, j'estime que cet impôt est de trop. J'ai essayé de faire une réflexion sur l'impôt professionnel, sur les revenus, l'IPR et la taxe sur la valeur ajoutée. Pourquoi j'ai essayé de faire cette analyse? Je me dis ceci. Généralement, le travailleur est soumis à un impôt de maximum 30% lorsqu'on lui paye son salaire. Et dès qu'il détient les 70% qui lui restent, il est soumis à pouvoir consommer ces 70%. Alors là intervient une taxe sur la valeur ajoutée, une taxe sur la consommation. Alors cette taxe est généralement de 16% pour le moment. Alors dès lors qu'il va au marché pour acheter, il va payer 16% sur les 70% qui lui sera resté, tout en n'excluant pas l'épargne qui doit être prise en compte. Mais généralement au Congo, l'épargne est vraiment à une proportion marginale, vraiment une proportion négligeable. On ne sait même pas si un employé congolais arrive à épargner. C'est pourquoi j'ai donné quelques réflexions, j'ai essayé d'analyser et donner des propositions si on peut réduire cet impôt à 10%, et voir comment est-ce que ça peut avoir des effets positifs sur l'augmentation de l'impôt au niveau de la TVA et des précomptes BIC et pouvoir créer même des richesses dans
les chefs
de l'employé.
Donc vous estimez que si l'impôt, l'IPR en question est réduit à 10%, oui, l'État se retrouvera mieux.
Se retrouvera toujours parce que la TVA va augmenter de 90%. Au lieu que la TVA puisse frapper 70% des salaires, va frapper maintenant 90%. Et sur les 90%, la TVA va pratiquement augmenter. Et en plus, il y aura création des richesses parce qu'il y aura une augmentation des cash flow au niveau des consommateurs, des entreprises. il y aura augmentation de cash flow, augmentation des ventes, et cette augmentation des ventes va entraîner la création des richesses. Et ça ne va pas se limiter à ce niveau, ça va aussi entamer le précompte BIC qui sera aussi augmenté, et le PIB de notre pays va prendre de l'ampleur. Donc à ce moment-là, je me dis que l'impôt aura fait son travail. C'est un peu ça.
Ça, c'est l'analyse de Armand Mounou. Mais entre-temps, les assujettis à l'impôt professionnel sur le bénéfice et profit ont jusqu'au 30 mars. Donc, le délai est dépassé pour déposer leur déclaration. Deuxième dossier, nous parlions également cette semaine de la présentation ce mardi à Lubumbashi du deuxième rapport 2008-2009 du comité exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE en sigle.
Pour le coordonnateur de l'ITIE, ces rapports permettra au public de comprendre le fonctionnement du secteur extractif, les régimes fiscaux des minéraux, les accords contractuels et la contribution des revenus. Un reportage de Colin Djuma Moussompo.
Pour le comité exécutif de l'ITIE, seules 37 entreprises minières sur l'ensemble des entreprises et comptoirs inscrits dans leur référentiel ont déposé officiellement leur déclaration. D'après ces rapports, la RDC comptait une importante production de cuivre estimée à près de 300 000 tonnes en 2009, le cobalt à près de 30 000 tonnes, la production industrielle du diamant par la MIBA dans la province du Kassai Oriental s'est chiffrée à moins d'un million de carats à cause de la suspension des opérations de cette entreprise en novembre 2008. Et pour ce qui est du secteur de l'or, le rapport note que son exploitation attire depuis quelques années un nombre important d'entreprises multinationales. Pour ce qui est de l'élaboration de ce rapport, la récolte de données a rendu le travail difficile, a déclaré Mac Douba Jérémy, coordonnateur à l'intérim de l'ITIE.
Beaucoup d'entreprises de nos amis investisseurs venus de l'Orient n'ont pas toujours saisi l'importance pour elles-mêmes du processus de l'ITIE. Les réussites financières ont aussi été un grand handicap dans le retour des formulaires à cause de la complexité de l'administration fiscale dans notre pays. Il a été très difficile d'obtenir les mêmes données fournies par la province du Katanga au niveau national.
Eu égard de tout ce qui précède, certaines voix s'élèvent pour dénoncer l'ambiguïté de ce rapport qui, pour certains membres de la société civile, ne reflète pas la vérité en ce qui concerne les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Mouteba, l'un des membres du comité exécutif national de l'ITIE, demande la création d'un tribunal pour les crimes économiques en RDC.
En ce qui concerne 2009, First Quantum a payé plus de 60 millions de dollars. Mais quand vous regardez dans le rapport qui vous est présenté, tous les secteurs miniers de la RDC en 2009 n'a payé que 99 millions. Et toutes les autres entreprises minières ont payé quoi? Donc c'est un rapport qui ne reflète pas la vérité du secteur minier de la RDC. Il donne les données agrégées. Données agrégées, ça signifie vous ne savez pas savoir si TFM a payé combien à l'État. Et donc, vous ne savez pas savoir ce que TFM a payé à l'État et ce que la population de Fungurume peuvent attendre, notamment de l'État par rapport à leurs droits. Là, vous n'avez pas dans ce rapport.
Après la présentation du rapport, un débat houleux s'en est suivi entre les participants, dont la plupart sont les représentants des entreprises minières et les membres du comité national exécutif de l'ITIE de Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo pour Echo d'économie.
Voilà, Armand Mounou, vous êtes avec nous dans ce studio pour analyser l'actualité économique. Quel commentaire vous faites un rapport qui a été publié sur les recettes que l'État a perçues par rapport aux industries extractives, mais un rapport qui s'avère avoir des écarts?
Effectivement, je dirais ceci. Moi, je souhaiterais qu'il se crée une structure de contrôle. Par exemple, le Parlement. Si le Parlement peut se saisir de ce dossier et pouvoir chercher à avoir les détails de ces rapports. Parce que d'une manière globale comme ça, c'est difficile de pouvoir savoir là où se trouve vraiment le vrai problème. Je souhaiterais que le Parlement se saisisse de ce dossier, comme le Parlement sera mis en place tout à l'heure. Le bureau du Parlement sera mis en place incessamment. Je souhaiterais que ce dossier aille au niveau du Parlement et qu'on puisse détailler ces rapports afin de trouver des solutions qui s'imposent.
Est-ce que vous êtes de l'avis de ce membre de l'ITIE qui demande à ce qu'on établisse en RDC des tribunaux économiques?
Bien sûr, mais ça va prendre du temps. Comme le Parlement est déjà mis en place, je souhaiterais que le Parlement commence déjà ce travail. Le processus de tribunal va prendre du temps. Ça peut nous prendre une année, deux ans. Mais étant donné que nous avons déjà un Parlement voté, ce Parlement peut constituer une commission pour traiter de ces dossiers-là.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les nouvelles en bref, Fly Congo est le nom de la nouvelle compagnie aérienne qui succède à Ewabora.
Le premier vol commercial a eu lieu ce lundi sur la ligne Kinshasa-Lubumbashi. Selon Jean-Marc Pajot, PDG de l'entreprise, à l'occasion d'une rencontre avec la presse samedi à l'aéroport de Njili, l'indemnisation des victimes du crash Ewabora en juillet dernier a déjà commencé. Selon lui, sept dossiers ont abouti jusque-là et les victimes indemnisées ont reçu chacune une enveloppe de 87 500 dollars.
Hausse du prix de la banane à Butembo, le régime de banane qui coûtait au début du mois entre 1 000 et 2 000 francs se vend aujourd'hui, Willy, entre 2 000 et 5 000 francs.
La coopérative des producteurs des produits vivriers indique que l'offre est aujourd'hui inférieure à la demande suite à la maladie Wheatbacteria qui décime les bananiers. Rappelons que la banane est un aliment essentiel dans les régimes alimentaires des populations du secteur de Butembo-Lubero.
Et une soixantaine de membres des communautés locales et des autorités coutumières de Lubero et Rutshuru s'opposent à l'exploration et à l'exploitation du pétrole par Soko International dans le parc national des Virunga.
Ils l'ont exprimé dans le communiqué final qui a sanctionné samedi un atelier de deux jours organisé par les organisations des défenses de l'environnement à Vichumbi, au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Pour les signataires, il y a crainte que la communauté locale ne soit perdante dans ce projet. Elle demande au gouvernement congolais de les impliquer activement dans l'étude d'impact environnemental et social avant toute exploration du pétrole dans leur zone.
Voilà quelques nouvelles en bref. Notre invité a-t-il quelque chose à dire par rapport à toutes ces nouvelles qu'il a entendues?
Effectivement, ce qui m'a intéressé le plus, c'est les vols aériens. Les transports aériens posent des problèmes au Congo. Nous avons d'abord une difficulté de pouvoir gérer la société publique d'aviation que nous avons. Et en fait, tout ce qui est privé, c'est coûte cher généralement. Parce que l'État en soi n'a pas lui-même quelque chose qui peut servir de coût social à la population. Alors, finalement, les transports aériens, c'est un transport qui pose un peu de problèmes dans notre pays. Nous avons des sociétés qui ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à la satisfaction de la population. Voilà une idée.
Mais bon, quand ce secteur finalement commence à s'ouvrir petit à petit, on voit des entreprises une à une arriver. Est-ce que ça doit susciter la joie ou plutôt la crainte auprès des Congolais?
Ça doit susciter la joie, mais il faut qu'il y ait un suivi de la part de l'État. Il faut être en mesure de pouvoir suivre les privés. Les privés, généralement, c'est un malin, c'est un homme d'affaires. Il faut le suivre de près parce qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Il faut mettre de la rigueur dans ce secteur pour qu'il n'y ait plus ce que nous avons vécu dans l'état passé.
Panorama économique, matière première.
Au nord Kivu, 11 sites miniers sur les 21 que compte le territoire de Masisi viennent d'être réouverts à l'exploitation minière, Willy Akonda.
C'est au terme d'un arrêté signé la semaine dernière par le ministre national des Mines. Selon cet arrêté, les sites ouverts à l'exploitation portent l'étiquette verte, alors que les sites non validés portent les mentions jaunes ou rouges. Selon les cas, les autorités provinciales saluent cette mesure du gouvernement central qui va constituer une bouffée d'oxygène pour l'économie du Nord Kivu. Rosalie Zawadi.
Cet arrêté est la dernière phase du processus de traçabilité des minerais qui part du puits en passant par les centres de négoce jusqu'au point d'exportation. Selon des experts du ministère provincial des mines, la validation des 11 sites miniers du territoire des Massissi veut dire que sur ces sites, il n'y a plus de militaires qui exploitent les minerais et que les violations des droits de l'homme n'y sont plus enregistrées. Cela veut dire aussi que les minerais issus de ces sites ne sont plus des minerais décents et qu'ils peuvent désormais être étiquetés et exportés au niveau international. Déjà, deux bureaux internationaux de certification des minerais sont opérationnels à Goma. Les sites ouverts à l'exploitation sont ceux des Bibatama, Mataba, Gakombe, Luowo, Koyi, Bujali, Bishasha, Nyamukubi, Kamatale et Birambo. On y exploite du cassitérite, du coltan et du wolframite. Selon la ministre provinciale des mines par intérim, le travail d'inspection des sites miniers va se poursuivre dans les autres territoires de la province. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Panorama économique, reportage.
Hausse du coût du transport en commun à Kinshasa, Willy Akonda.
Les usagers du transport en commun affirment dépenser depuis quelques semaines deux fois plus que d'habitude pour leurs déplacements. Ils mettent en cause les systèmes connus sous le nom de demi-terrain pratiqués par les chauffeurs. De son côté, l'association des chauffeurs du Congo met en cause le gouvernement provincial de Kinshasa qui, selon cet organe, refuse de revoir à la hausse les tarifs du transport en commun. Dako Tambikila nous en dit plus.
D'après les présidents provinciaux de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, de novembre 2010 à mars 2012, les prix du litre de l'essence est passé de 1550 francs congolais à 1340 francs congolais, soit une augmentation de 20,3%, ce qui devrait entraîner l'augmentation du prix du transport en commun dans les mêmes proportions selon les accords conclus entre la ville et l'ASECO. Cependant, la grille tarifaire du transport en commun, elle, est restée la même. Une situation que dénonce M. Ndouzi Mpona, président provincial de la SECO.
Depuis que on avait augmenté la dernière fois le prix de carburant jusqu'à ce jour, nous avons estimé qu'il y a nécessité à ce qu'on puisse augmenter le prix des courses des taxis et taxibus à ce jour. Que l'hôtel de ville puisse réagir. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a nécessité à ce que le prix puisse être un peu revu à la hausse.
Ainsi, certains chauffeurs augmentent unilatéralement le prix du transport en commun. Pour une course qui valait 400 francs congolais, ils font payer 500 francs. D'autres optent pour le système dit demi-terrain, consistant à faire la moitié de la course pour le prix de la course entière, afin de doubler leurs gains. Les usagers du transport en commun s'en plaignent.
Suite à ma demi-terrain, chauffeur au salaire, s'il faut prévoir au moins 1500, 1000 francs, pour lancer un système à demi-terrain au Qatar. Kozwan dam pour qu'on m'attende. Place on a pas mes corbeaux, moi mouké, moi solution moko à l'amiable afin que n'a pas receveur, n'a pas chauffeur, n'a biso ma client se retrouver.
La ville de Kinshasa ne s'est toujours pas prononcée sur la question pour l'instant. Et pendant ces temps, les usagers du transport en commun se disent abandonnés à leur triste sort.
Voilà, merci Dako pour ce reportage. Armand Mounou, quelle est votre analyse de la façon dont est pratiqué le transport en commun à Kinshasa particulièrement?
En fait, il y a trois ans passés, j'ai analysé les transports privés dans la ville de Kinshasa face aux fluctuations monétaires. Généralement, les transporteurs ont tendance à pouvoir réclamer les coûts du transport quand il y a augmentation du carburant à la pompe. Généralement, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça, suffit pas. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte pour pouvoir fixer les coûts des prix du transport. Et nous devons savoir que les coûts du transport, c'est un coût pratiquement social. Le domaine du transport, c'est un domaine, c'est l'apanage même de l'État. Donc, quand les privés arrivent, ils cherchent à s'imposer et chercher à pouvoir fixer généralement son prix pour qu'il se retrouve. Alors qu'en réalité, l'État ne peut pas prendre une décision brutalement comme ça. Sinon, ça risque d'entamer la population.
Mais quand même, vous l'avez suivi dans ce reportage, depuis pratiquement deux ans, le carburant a grimpé de prix de plus de 20%. Et vous pensez que les transporteurs, eux, devraient continuer à subir cela sans brancher?
Madame, je ne dis pas que les réclamations n'est pas fondée. Mais je voulais juste ajouter qu'en dehors du coût du transport du carburant, il y a d'autres paramètres qui s'ajoutent et qui fait que les transporteurs puissent sentir un coût dans leur exploitation. Il y a les pièces de rechange qui coûtent énormément cher. Il y a la tracasserie policière. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais généralement, quand l'association des transporteurs réclame, il met plus l'accent sur l'augmentation du prix du carburant. Moi, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui doivent être révisés pour que les transports soient stables. C'est un peu ça.
Comment les choses devraient se passer selon vous?
Moi, je pense que l'État doit prendre ses dispositions. L'État doit prendre en main les transports urbains pour que les transporteurs privés ne puissent pas à tout moment imposer leurs prix. Vous voyez, par exemple, ce que nous sommes en train d'assister dans la ville de Kinshasa, le système de demi-terrain.
Oui.
Généralement, quand vous êtes, par exemple, à Kinshasa, pour arriver en ville, et vous n'allez pas payer pas moins de 1000 francs. Alors que si l'État congolais a pris ces choses en main, on pourrait payer peut-être 500 francs congolais. Voilà un peu comment on peut résoudre ces problèmes. Que l'État prenne ses responsabilités afin que cette situation puisse être résolue. Et dans les chefs même des transporteurs privés, ces entreprises, soi-disant des entreprises privées de transport, ce sont des entreprises qui ne sont presque pas structurées. Il y a un problème dans l'organisation, même dans la manière de gérer ces entreprises. Généralement, ce sont des gens qui s'achètent un taxi-bus, une voiture, et après, ils donnent à quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre les choses, et il se met à réclamer à tout moment. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas vraiment une bonne structure dans ces entreprises, raison pour laquelle ils n'arrivent même pas aussi à pouvoir émerger. Ce sont des entreprises qui naissent et qui meurent régulièrement. Donc, ce ne sont pas des entreprises fixes. Nous avons un problème de transport vraiment sérieux dans la ville de Kinshasa.
Et selon vous, l'État devrait prendre ses responsabilités dans ce secteur. Mais nous voulons parler de votre ONG. Vous nous aviez dit que vous étiez promoteur d'une ONG, une ONG dénommée Structure en Diversité pour un Développement Enraciné. Parlez-nous brièvement de cette ONG.
La Structure en Diversité pour un Développement Enraciné, c'est une ASBL, une ONG qui y a vu le jour il y a 3 ans passés, et nous sommes en train de promouvoir l'agriculture et l'élevage. Déjà, nous avons commencé des petites activités vers les fonds, l'ouest de la ville de Kinshasa, mais nous continuons à pouvoir réfléchir pour étendre ces activités dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et en plus de cela, des activités de promotion des affaires. Raison pour laquelle nous avons mis en place une chambre d'orientation et d'organisation en affaires. Cette chambre est assistée par plusieurs éminents professeurs d'université,
oui,
et notamment moi-même, pour encadrer les initiatives des personnes qui veulent avoir des conseils pour la promotion de leurs activités. Voilà un peu ce que nous faisons.
Bon vent donc à cette ONG dénommée Structure en Diversité pour un Développement Enraciné. C'est sur ce commentaire que prend fin le panorama économique de ce week-end. Merci Armand Munungoma d'avoir été des nôtres pour la première fois. J'espère que ce n'est pas la dernière fois.
Merci madame.
Merci à Willy Akonda de nous avoir également accompagnés. Merci surtout à vous, fidèles auditeurs de Panorama Économique. Ne ratez pas les rendez-vous économiques sur Radio Okapi du lundi au vendredi dans Écho d'économie à partir de 18h15 de Kinshasa. Chers auditeurs, passez un bon week-end chez vous en compagnie des programmes de Radio Okapi.